Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies.
Rebecca Chaillon réunit 8 artistes afrodescendantes pour un spectacle politique, transgressif et pluridisciplinaire. Dans le dernier épisode du podcast Dramatis, je vous en parlais, faisant au passage une blague de très bon goût sur Fessenheim. Ce spectacle, c'est Carte Noire nommée Désir, et après quelques extraits de mon entretien avec la performeuse et metteuse en scène Rebecca Chaillon, profitez aujourd'hui de l'échange complet autour de cette performance décoloniale. Je suis Mathis Grosot et vous écoutez Dramatis, le podcast qui va vous réconcilier avec le théâtre ou vous rappeler pourquoi vous n'y allez jamais. Voilà. Bah, je voulais commencer tout simplement en te demandant, par rapport à ton activité, comment tu te définis en fait professionnellement, dans le sens où bah, tu es à la fois metteuse en scène, il y en a qui disent que tu es performeuse, artiste, je sais que tu as une formation aussi en maquillage. Qu'est-ce qui prend le dessus dans tout ça et toi, comment tu te définis tout simplement professionnellement?
Alors, je crois que ce qui prime maintenant, c'est la performance. Enfin, en tout cas, c'est performeuse, mais parce que je trouve que c'est un média où je peux mêler toutes mes autres pratiques. Où je peux intégrer le fait d'être metteuse en scène parce que être performeuse, c'est être un inner metteur en scène en même temps. Enfin, en tout cas, l'avoir intégré. Et puis, dans mes performances, j'écris. Et voilà. Donc, du coup, ça recoupe tout ça.
Du coup, tu as créé donc, ce spectacle Carte Noire nommé Désir. Comment tu le décrirais, ce spectacle, pour quelqu'un qui n'a pas pu le voir ou qui ne voit pas de quoi il s'agit? Et ensuite, je voulais aussi revenir sur l'historique du spectacle. Peut-être que les deux questions vont s'imbriquer, ça dépend d'eux. Comment tu racontes tout ça?
Eh ben, je le vois comme un gros cadeau de la vie qui a été assez éprouvant, mais qui représente. Alors, c'est pas ma dernière œuvre, et c'est pas. Voilà, mais c'est un peu une œuvre qui était hyper importante pour moi et que je pense que j'attendais depuis très longtemps. Parce qu'elle vient travailler à l'endroit de ce que j'ai toujours voulu faire autour des identités féminines, ou en tout cas, voilà, de questionner nos présences femmes. Au sens large, mais bon, moi je suis une femme cis, donc du coup c'est sûr que c'est d'abord ça qui m'a interrogée et noire, et puis et de pouvoir balayer aussi par rapport aux personnes que j'ai invitées avec moi sur le plateau, bah, tout plein d'autres questions, voilà, d'origine ethnique, de classe sociale, de sexualité et tout. Carte Noire nommée Désir, c'est un spectacle performatif qui peut prendre une forme un peu de conte ou d'épopée afro-futuriste, afro-féministo-futuriste, qui dure, ouais, je pense, presque 3 heures, où on est 8 interprètes, professionnels, non professionnels, mais en tout cas toutes très engagées dans les sujets autour de l'afro-féminisme, en tout cas là, voilà.
Est-ce qu'on peut revenir sur ce titre, justement, qui est une espèce de double référence ou de double jeu? Donc, tu as la référence à donc la pub que j'ai pas connue, car je suis né il y a 2 jours, de Carte Noire, un café nommé Désir, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, ce jeu avec carte blanche, tout ça, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que ça cristallise, ces références, et pourquoi tu as choisi ce titre?
Moi, j'ai grandi devant la télé beaucoup, donc cette pub, parmi tant d'autres, et elle me permettait de questionner aussi tout le rapport au modèle existant et ce que j'ai pu voir par la télé, par la radio, par la musique, de présence noire et de comment étaient exotisés ou représentés les noirs dans la télévision, dans la mode, dans la publicité. Et dans la pub Carte Noire, moi j'y voyais ce truc de mélanger café et désir ou excitation. Voilà, c'est pas une grande révélation, mais ça m'interrogeait que nous, en tant que femmes noires, en tant que personnes noires, on compare souvent nos peaux à du café au lait, dans une démarche souvent qui n'est pas du tout négative, mais qui me semblait paradoxale avec la manière dont on a traité les personnes noires en France, notamment, et qui a un côté très brut, sauvage, et voilà. Et de l'autre côté, parallèle, on nous nous qualifie de boisson chaude, sucrée, gnagnagna. Et donc, je trouvais qu'il y avait vraiment une dichotomie par rapport à ça. Je trouvais qu'il y avait un jeu de mots sur le fait d'être des boissons chaudes, alors qu'il y a une hypersexualisation des femmes noires et du fait qu'elles viennent de pays chauds, et ben elles sont chaudes. Enfin, il y a un amalgame là. Et voilà, ça c'est le premier truc. Après, carte blanche, carte noire, oui, en effet, parce que moi je sortais des camps d'été des coloniaux et de temps en non-mixité choisis entre personnes victimes de racisme. Et c'est des temps qui m'ont marqué, et toute une période qui m'a marqué, de lecture, d'écoute de podcast. Et j'avais envie de faire un spectacle qui rende hommage à ces outils-là, militants, et aussi qui rende un peu à toutes ces travailleuses et tous ces travailleurs politiques, militants, qui m'ont fait grandir. Donc.
Et sur la création du spectacle, je sais que tu es plutôt de l'école écriture de plateau, que le texte figé comme un espèce de truc auquel on touche pas trop et après qu'on interprète. Comment ça s'est créé concrètement ce spectacle? Surtout que du coup tu es pas mal entouré sur scène. Comment ça s'est fait?
Ça s'est d'abord fait à deux avec Aurore Déon. On a d'abord, avec Aurore Déon et avec notre régisseuse Suzanne, sur un truc un temps très rapide pour créer, genre 2 semaines, pour arriver à faire une sorte de forme plus performative encore, qu'on a joué dans un petit lieu qui s'appelait La Loge, ceux qui nous avaient invités à faire la carte blanche. Et donc on a cherché, il y a beaucoup les essences du spectacle qui sont nées dans ce temps où on a fait des longs entretiens, de travailler sur les anecdotes, tout ce qu'on avait pu vivre, un peu sur la même trame que le film Ouvrir la voie de Amandine Gay, c'est-à-dire c'était quoi notre enfance, c'était quoi nos rapports à nos parents, c'était quoi notre rapport à l'amour, au désir, comment on était perçu, etc., etc. Donc de ces entretiens-là, dégager des images, et puis certaines images devinaient des actions, et j'avais envie qu'on fasse attention à ce que le spectacle ne soit pas daté, parce que je voyais bien qu'il y avait une sorte d'engouement pour tous ces sujets, et donc il y allait avoir beaucoup de prises de parole, beaucoup de paroles documentaires, et documenté, et je voulais que Carte Noire soit un endroit de choses presque comme dans un musée, une œuvre qui puisse durer, d'où le travail de performance un peu plastique et fantastique qui décale un petit peu. Voilà, donc le texte il arrive un peu avant, enfin il se mélange, enfin je sais pas, il y a des par contre en effet le texte il est figé quand il est là, mais ça me dérange pas d'en rajouter. Et il a différentes qualités. Il y a de la parole écrite, improvisée, de la parole protocolée, il y a de l'interaction, il y a du poème assez dense, et voilà.
Le livre aussi de Je ne suis pas votre Fatou.
Voilà, Fatou, à qui j'ai fait une petite commande d'écriture. Et puis après, il y a d'autres langages, comme de la composition musicale ou de l'interprétation. Enfin, voilà, j'estime que tout ça, c'est des langues et que... Et que voilà, ces différentes écritures, ces différentes dramaturgies, elles peuvent se croiser, quoi.
Ok. Tu parles justement de ta casquette de plasticienne dans la création. C'est vrai que la scénographie est très très marquante. C'est-à-dire qu'on arrive, on a plein de choses à voir déjà sur le plateau. Il y a notamment ces tasses de café suspendues qui coulent en continu avec les gouttes qui résonnent dans les micros. Ce qui est assez hypnotique. On a l'impression d'être dans une grotte, c'est très étrange. Je me demandais ce qu'avait été la réflexion justement autour de la conception de ce plateau.
Là, j'ai travaillé avec plusieurs artistes, notamment avec Elisa Monteil, qui est ma partenaire de performance depuis toujours, et qui là, comme elle est blanche pour le spectacle, elle ne pouvait pas être au plateau, donc elle a pris en charge la création sonore. Et donc elle sait ce dont j'ai besoin en termes de travail d'ambiance, de plongée. C'était dans Carte Noire, le truc très important, c'était le rapport au temps. Et donc voilà, cette caverne dont tu parles, c'est un peu le supplice de la goutte aussi, ce truc sisyphien qui revient et qui parfois devient hypnotisant, mais voire un peu entêtant. On a envie que ça s'arrête, quoi. On a envie que le temps s'arrête. Donc ça, c'était important pour moi, de travailler sur des temps étirés, des moments de silence, et des silences qui n'en sont pas. Avec Elisa, on a travaillé sur le fait d'être denté le lieu, avec Camille Riquier et Sherazade Dermier, qui ont travaillé à la scénographie et au costume. Moi, j'avais beaucoup parlé d'avoir un espace très blanc, très pur, entreprise, très institution, en fait, et qui allait devenir de cet espace intérieur plutôt fermé, froid et blanc, vers un espace plus extérieur, plus nature. L'image de fin, en tout cas, va vers la construction d'un arbre, et de ses racines jusqu'à ses branches les plus hautes. Et donc pour moi, c'était une manière de ramener de l'extérieur dans l'intérieur.
Je voulais revenir sur ça. Justement, c'est très rare de voir ça, dans le sens où le début, moi, je suis parti voir la pièce en ayant lu le pitch, mais en ayant un peu zéro idée de ce que j'allais voir. J'avais pas vu tes travaux par le passé. Et je suis vraiment arrivé un peu à blanc, littéralement. Et vraiment, je savais pas où ça allait aller. Donc, la performance qui s'étire au début sur à peu près une quarantaine de minutes de silence, moi, je savais pas si c'était le spectacle en totalité. Je savais pas s'il allait y avoir d'autres comédiennes. Enfin, j'étais vraiment au courant de rien. Et je voulais justement revenir sur ce départ où il y a en fait à la fois plein de choses à voir et en même temps c'est très très limité. Bah, on te voit toi travailler en train de lessiver le sol, ce qui est presque perdu d'avance avec les tasses qui goûtent, comme on le disait tout à l'heure. On voit ta consoeur qui est céramiste à côté. Il y a une ouvreuse qui sert derrière les personnes afrodescendantes qui sont placées. On va y revenir après. Concrètement, c'était quoi cette réflexion autour du début? Et pour toi, c'est quoi un début? Dans le sens où vous êtes déjà sur le plateau quand le public rentre, il y a un truc très très liminaire là-dedans. Qu'est-ce que c'était cette réflexion sur le début?
Moi, j'avais envie de dire, c'est quoi la place des femmes noires dans l'institution? Et donc, c'est quoi ces femmes noires? C'est rare, si tu veux. Enfin, moi, j'avais jamais vu, à part peut-être Eva Doumbia, mais j'ai pas vu son spectacle de femmes noires françaises. Enfin, un plateau rempli que de femmes noires française, et je me suis dit c'est quoi la place des femmes noires en France, et souvent c'est à prendre soin, à faire l'entretien du monde, que ce soit l'hôtellerie, le ménage, la nourrice, la cantine, je sais pas, en tout cas il y avait quelque chose de l'ordre du soin du monde, et une opposition forte avec le fait de prendre soin de soi, ou de pouvoir prendre soin de soi, que ce soit en santé mentale, ou le corps, les cheveux, enfin bon, etc., etc., santé sexuelle et tout. Donc j'avais envie que la première image ce soit que les gens aient comme un doute sur le fait qu'ils rentrent et que le spectacle c'est pas le spectacle, c'est juste non, on est en train de finir de préparer le plateau pour le spectacle, parce que le théâtre c'est pas ça, ça peut pas être des femmes noires hein, au plateau. Donc d'abord ce premier rôle là après j'avais très envie qu'il y ait un rapport au temps défiant. Quand on compte 4 siècles d'esclavage et 2 siècles de colonisation, t'es sur 6 siècles de temps récupéré, donc finalement la pièce 2h40 c'est rien, et donc, mais quand même il fallait que qu'il y ait bien 40 minutes où on pose ce paradoxe un peu fou de... moi, je suis peinte tout en blanc et je vais travailler à rendre propre un espace qui ne pourra jamais être propre. Mais en même temps, il est sali de ma couleur de peau. Et en même temps, moi, plus je me frotte avec cette javel et quoi, plus je deviens noire. Donc, tout un endroit de paradoxe et de... Bon, voilà, j'avais besoin que ça s'étire. Et j'ai aussi besoin, théâtralement parlant, que les gens soient très très connectés et très comment dire, prêts à chaque petit détail. Mmh. Et donc pour ça, il faut être, j'avais besoin d'étirer le temps et que chaque petite chose qui se passe soit un nouvel élément à lire, quoi, à interpréter. Tout est signe, et donc ce long temps de silence, il est là, enfin de faux silence, il est là pour ça.
C'est intéressant que tu dis ça, du coup j'allais t'amener là-dessus, sur le fait que justement ce temps long, il change complètement le regard, en effet, qu'on a un vrai truc d'adaptation, où on est en fait forcé de faire du micro et de regarder ce qui se joue dans le détail. À quel point ce détail il est écrit, à quel point il est performé, est-ce que vous savez où vous allez, est-ce que tu savais que ça allait durer 40 minutes, ou est-ce que c'était un peu au gré du vent, surtout que j'ai l'impression que du coup des personnes qui sont venues par la suite t'aider à faire ces tresses étaient pas toutes comédiennes, et ce qui est très drôle, c'est qu'au début, on se dit, du coup, qui est comédien, qui ne l'est pas, qui joue pas, qui est au courant. Et c'est assez intéressant, justement. Quelle est la marge de calcul là-dedans?
Alors, on n'est pas parti. La contrainte, ça n'a pas été le temps. La contrainte, ça a été les actions, qu'elles se fassent dans la réalité de leur épuisement. Donc, bon, il y a une réalité qui est l'entrée publique. C'est-à-dire que, vu qu'on est là dès l'entrée publique, ben, selon combien de temps elle dure, 20 minutes, 30 minutes, et ben, ce ménage se fait. Et après ça, ouais, la réalité des actions, quoi, jusqu'à ce déshabillage, et puis après le temps du soin, le temps du soin qui est un temps en plus mal mené, parce qu'on voulait interroger sur aussi le temps qu'ont les personnes qui sont dans le service pour nettoyer une chambre d'hôtel, pour s'occuper d'une personne à l'EHPAD, pour s'occuper, voilà, donc tout ce temps de soin qui est hyper mal mené, et ce temps aussi de tressage. Alors désolé, je dévoile beaucoup, mais c'est aussi un temps qui est ambigu, parce qu'on sait peu si c'est un temps esthétique de soin pour être belle, ou un truc qui arrache un peu la tête et qui, voilà, c'est une sorte de sororité silencieuse. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le fait que ce temps dure longtemps et qu'il y ait ce public privilégié, elle se sent invitée, on sait plus trop en effet qui est qui, et parfois des personnes du public osent venir sur le plateau aider, participer, puis des fois elles restent spectatrices, et tout est ok. Mais Ouais, c'est assez protocolé. Nous, on sait exactement ce qu'on fait. On sait exactement qui va rentrer, qui va dire quoi, à peu près. Voilà. Maintenant, c'est quand même assez écrit.
Ok. Voilà. Je voulais revenir sur le dispositif. Tu as un dispositif bifrontal, donc c'est-à-dire qu'on a un public de chaque côté du plateau. Mais contrairement à beaucoup de spectacles qui ont un dispositif bifrontal, il y a justement une réflexion sur la non-mixité et le fait du coup d'avoir une partie du public avec des femmes ou des personnes qui ont un vécu de femmes ou des personnes non-binaires qui sont afro-descendantes. Ça a été quoi la réflexion autour de cet espace d'abord? Et puis ensuite, c'était quoi l'effet escompté?
Eh ben, c'est comme tu dis, une réflexion sur la non-mixité choisie qu'on trouve dans les milieux militants quand il s'agit de discuter sur les dominations. Moi, c'était un outil que j'avais trouvé, que j'ai rencontré tard et qui m'a fait énormément de bien, là où je pensais pas, puisque je pense que j'ai grandi dans quelque chose de plus universaliste et bien pensant de gauche. Et donc, ça m'a semblé radical. Et puis, d'un seul coup, ce mot radical m'a semblé bête parce que je me suis dit, en fait, c'est tellement violent ce qu'on vit, c'est pas si radical. Cette proposition. Je me dis que l'espace de théâtre est un espace de jeu, et donc dans un jeu il y a des règles, et donc à nous amuser pour poser des règles, et comme on parle de qui nous regarde, on parle de dans tous ces domaines-là, on parle de regard, de gaze, de male gaze, de white gaze, de tout ça. Donc c'était important pour moi de mettre en jeu cette question du point de vue, et d'affirmer très fort que j'allais faire zoom, que j'allais pas pouvoir parler de toutes les personnes racisées, de toutes les femmes, de toutes les situations, mais là j'allais faire zoom sur ce groupe social, on va dire femmes plus noires. Donc cet espace privilégié, il fallait qu'il soit confortable, il fallait qu'il soit réaliste, dans le sens où je sais bien que il va pas faire la taille du gradin d'une salle de théâtre, parce que je sais qui remplit les salles, mais c'est important que ce soit visible aussi. Donc on est sur nous une vingtaine de places, et selon les lieux et selon l'espérance qu'ils ont de remplir cet espace-là privilégié, on est sur une vingtaine, quarantaine de places. À Montreuil, c'était justement hyper réjouissant, parce que on est dans un endroit où là il y avait vraiment beaucoup de femmes noires. Et après, il y a aussi des femmes noires qui décident, ou des personnes noires qui pourraient venir dans ce groupe, qui décident de ne pas aller de l'autre côté, parce que c'est quand même un espace qui expose aussi.
Et qui change d'avis, des fois.
Ouais, qui change d'avis, qui commence par s'asseoir là, et puis dit « Oh putain, je vois bien que je suis très exposé, et qu'on me voit beaucoup quand même. »
Mais c'est surtout dans l'autre sens. On voit beaucoup de gens s'installer justement dans la partie, on va dire, majoritaire des gradins, et parfois et demander à un ouvreur et aller rejoindre justement cet espace derrière. Je sais pas si tu as vu ça.
Je vois pas tout, en plus j'ai des lentilles.
Oui.
Donc je vois pas tout ce qui se joue. J'entends parfois des personnes blanches qui disent « Mais moi, on est tous descendants d'Afrique. » Moi, je me sens noire à l'intérieur. Bon, bref, c'est assez rigolo parce que je me dis qu'au long du spectacle, ils doivent se sentir un peu ridicules. Mais... bon, voilà. Non, c'était. J'aime bien que ça fabrique une petite communauté le temps d'un spectacle, finalement. Et puis c'est ça aussi la règle du jeu de la non-mixité, c'est un temps donné pour vivre un truc ensemble, partager quelque chose avant de retourner au monde et à sa mixité obligée. Donc. Je trouve que l'espace théâtre crée bien ça. On sort d'un spectacle, on a vécu une expérience commune, on l'a pas vécu du même point de vue, et après on se retrouve, et puis on retrouve nos parents, nos amis, des gens autour de nous.
T'as abordé le fait que la composition des salles de spectacle en général est quand même majoritairement blanche, majoritairement bourgeoise. Enfin, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus. Alors peu sur la couleur de peau, parce que je pense que on est encore bloqué en sociologie là-dessus. Mais du coup, est-ce que ça a été une inquiétude par rapport à ce public de finalement avoir cet espace et que y ait deux personnes, voire pas du tout?
Non, on a eu zéro personne.
Ah ouais.
Ouais, on a eu zéro personne. On a eu une personne. On a pour deux, trois. C'est vraiment en région parisienne, ou en région parisienne, un peu en Suisse aussi, mais sinon, pas toujours, quoi. Donc oui, ça a été une crainte, mais ça a été une crainte aussi que j'ai eu très peur à partir du moment où on s'est rendu compte que on serait pas toujours dans des salles où il y aurait pas de fosse. Enfin, en gros, y a des salles où les personnes sont obligées de descendre dans la fosse, de monter sur scène vraiment. Il y a des scènes, c'est même comment dire, de plein pied, et donc on est plus sur un rapport d'égalité des gradins. Donc il a fallu décider de se dire en fait ça va être dans la scénographie, en fait ça fait partie du spectacle, donc elle rentre dans le spectacle, et donc ça c'est un choix. Est-ce que je suis sûre de les protéger? Est-ce que on avait eu une discussion un peu houleuse à l'époque avec Amandine Gay sur justement est-ce que c'est quoi cette chose de refaire vivre des situations difficiles ou violentes sur un plateau, et est-ce que vraiment servir un café ou un rhum ça suffit? C'était l'époque où en tout cas c'était la première forme, et moi ça m'a beaucoup aidé à me dire qu'est-ce qu'on fabrique en fait, et comment on prend soin. Est-ce que c'est prendre soin que de réexposer des choses violentes comme ça? Mais En fait, il se passe des choses magiques entre les personnes dans le spectacle qui se tiennent la main, se font des câlins, pleurent ensemble, rigolent ensemble, chantent fort, se mettent à venir avec. Enfin, donc je trouve qu'il se passe plein de choses mitigées et chacune a son endroit. Et après, on a beaucoup de personnes afrodescendantes qui reviennent avec leur mère, leur sœur, leur tantine. Ou même pour nous, dans le spectacle, on est beaucoup à avoir. C'est pas si simple pour nous. Parfois, c'est simple parce qu'on est artiste et qu'on a l'habitude de jouer devant des gens, mais pas forcément devant nos familles sur ces sujets-là, qui sont parfois des sujets qu'on a beaucoup de mal à aborder en famille, sur notre sexualité, sur notre manière d'être, de vivre notre. Je sais pas. C'était important, ce coup, de voir nos mères de l'autre côté.
Ouais, complètement, j'imagine. Bah, surtout qu'il y a un truc de génération, parfois, qui n'a pas le même rapport à toutes les questions d'identité. Là-dessus.
De discrétion, de.
Ouais, évidemment.
De pas raconter sa vie. Moi, chez moi, enfin, Martinique, c'est vraiment raconte pas ta vie, secret, tout ça, machin. Donc, là, ma mère, elle a appris que j'étais. Elle a compris qu'il y avait rien à faire, de toute façon. J'ai décidé d'être dans la dans une surtransparence, en me disant que ça pourrait faire pont avec les gens et qu'ils n'avaient marre des secrets, on va dire, entre guillemets.
Et c'est un espace qui est très vivant, en tout cas, ça l'était à Montreuil. Mmh. C'était un espace où il y avait des vraies discussions. Et tu mentionnais tout à l'heure les remarques que tu avais pu avoir, je pense surtout des personnes blanches, mais bon, parfois on peut être surpris également. Est-ce que tu as eu des retours, pas forcément conflictuels, mais en tout cas des retours sur ce dispositif ensuite?
Bon, beaucoup de retours positifs, c'est sûr. Et après, c'est vrai que moi je sors pas tout de suite parce que j'ai peur aussi de rencontrer et souvent les gens qui ont pas apprécié ou quoi ou qui sont pas sentis bien restent pas pour nous le dire. Donc j'ai eu des gens qui s'ennuyaient enfin dans la forme des gens, il y a des gens qui questionnent mais je l'ai pas eu frontalement. Des gens qui questionnent en effet pourquoi on divise, est-ce que c'est pas, par exemple, c'était très drôle, mon grand frère, il est venu et dans le hall il entend l'annonce qui explique la potentielle invitation à séparer le public, ou en tout cas à disposer de deux espaces. Et il m'a dit, il m'appelle avant que ça commence, mais je vais à deux doigts d'entrer sur scène. Il me dit, c'est quoi ce truc? C'est du racisme inversé. Et donc je me dis, bon bah voilà, mon frère est noir et tout machin. Je me disais, bon bah ça va te faire travailler tout le monde. Bon, après c'était plutôt réconciliant et il a compris ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que ça peut arriver de tous côtés. Et voilà, et pendant le spectacle, oui, on va avoir. Si, il y a peut-être des moments quand des fois, on colonise le public. Bon, c'est pareil, c'est un spoil aussi. Et ça, selon les endroits où on est, à Montreuil, par exemple, c'était très drôle parce que. Donc, il y a des endroits où ça résiste, et c'est normal quand on vient de piquer tes affaires perso. Voilà, et puis, à Montreuil, c'était vraiment un endroit où les gens voulaient vraiment être des alliés. Et donc, voulaient pas. Donc, les gens me tendaient leur smartphone en me disant prenez. Et donc, là, on se disait non, mais. Non, même ça, c'était pas possible de. Je sais pas comment dire.
C'est à quoi une comédienne a même répondu, vous voulez pas les coups de fouet avec
Ouais, bien sûr. Non, mais parce que nous, on cherche cet endroit un peu chelou. On est sur un spectacle sur l'aliénation. On n'a pas. Y a pas un public qui me correspond plus ou que j'aime plus ou moins. C'est vraiment. Moi, je suis des deux côtés.
Et justement, on parle de non-mixité, mais il y a donc la non-mixité du casting qui est aussi l'éléphant dans la pièce, évidemment. Dans d'autres créations que tu as fait, je pense à L'estomac dans la peau, t'étais toute seule à porter ça. Là, vous vous retrouvez à 8. Ça se passe comment, une création déjà à 8 et surtout à 8 femmes qui ont une expérience commune de femmes afrodescendantes en France, avec évidemment plein de subtilités, j'imagine. Concrètement, qu'est-ce que ça a créé chez toi?
C'était hyper agréable, mais déjà depuis où la chèvre est attachée, même si du coup c'était pas aussi aussi serré comme groupe sociologique. On était femmes et personnes trans dans le groupe, lesbiennes certaines, pas d'autres, enfin bon, c'était assez large. La carte noire, on resserre, et donc dans les discussions c'était plus serré, et aussi comme on était toutes à ce moment-là d'information, de prise de conscience, enfin de conscientisation politique et tout, ou d'envie, pour certaines c'était pas du tout, c'était pas forcément un vocabulaire, mais il y avait une envie de se coltiner à ces questions. On a beaucoup parlé, c'était beaucoup d'entretiens, beaucoup de tentatives de qu'est-ce que c'est que de la sororité, des échanges sur nos cultures ou les traditions de nos parents, concernant nos corps, concernant la sexualité, de coming out divers sur nos santé mentale, sur nos sexualités, sur nos pratiques, comment on gère nos parents. Enfin bon, on a beaucoup eu d'échanges. C'était assez fort, c'est toujours fort. Je pense notamment à Estelle, la circassienne, celle qui commence ouvreuse et finit lionne sur sa roue, enfin voilà, qui habite en Suisse, qui a été adoptée, qui a grandi dans une famille blanche, et donc pour elle, il y avait plein de choses qu'elle a rencontrées de manière très concrète en étant avec nous, et que le retour en Suisse dans son village était pas forcément facile. Il y a eu dans le groupe pas mal de personnes qui ont dû se séparer d'amis ou de petits amis, petites amies, justement sur ces questions qui s'éclaircissaient politiquement, mais qui étaient difficiles à supporter dans le retour à la vie après. Donc, ouais, on a. Bon, après, c'est banal, tout le monde a des groupes maintenant, WhatsApp et machin. Bon, moi, j'ai un Nokia 3310, mais on a un groupe sur Messenger où on se partage tout. On se partage les messages qu'on reçoit des spectacles, mais aussi on s'entraide, voilà, on se file des plans. Enfin, une qui est malade, on s'envoie des livres, on s'envoie des trucs. Voilà, il y a une sorte de tentative de fabriquer un groupe humain en dehors du spectacle.
Je me demandais justement, par rapport à leur parcours artistique, pour le coup, comment tu avais réussi à concilier ces univers aussi différents. Donc tu mentionnes une circassienne, on a parlé de la céramiste qui est là, il y a une chanteuse lyrique qui en effet joue de la harpe en plus. C'est des pratiques artistiques qui déjà sont souvent sous-représentées au théâtre. Comment on articule un spectacle avec autant de choses finalement, comment on fait pour avoir un spectacle aussi composite, quoi?
Ouais. Ben, je sais pas, hein, c'était... Comme d'hab avec moi, c'est assez le bordel quand on travaille. Il n'y a pas un truc très écrit en amont. Donc, j'essaie toujours de leur demander qu'avec leur discipline ou leur... Quand discipline, c'est aussi des fois leur endroit d'expertise dans la vie, qu'elles arrivent à être expertes au plateau, à prendre des risques, à déplacer ou décaler leur travail habituel par rapport au sujet. Donc, c'est le fruit de plein d'improvisations et de choses qu'on a fait se rencontrer, qui n'étaient pas forcément évidentes. Ouais, des choses qui apparaissent tard. Je sais pas, le rapport à la céramique, après, d'un seul coup, on se dit, ah, mais des tasses, parce que le café, bon, ok, ça marche là. Mmh. Et puis, hop, ce rapport au classique, l'espace privilégié, d'un seul coup, une harpe, ça fait très salon littéraire. Enfin, on se racontait des petites histoires, un peu, comme ça. Mais c'est quand même un gros patchwork. Ce qui l'unit, je crois que c'est vraiment nous qui faisons lien, en soi, tous ces trucs-là. J'avoue, il aurait pu avoir une bouchère et je sais pas moi, une peintre, on aurait trouvé quand même, parce que en fait, c'est là. Mais j'ai pas cherché ces personnes-là pour leur discipline. Les ai rencontrées, elles avaient ces disciplines et j'ai dit ok, on y va. Donc des coups, on n'a pas forcé. Des fois, ça rentrait pas parce que c'est un spectacle qui frôle, qui est entre théâtre et performance. Et parfois, il y a des choses qu'on peut pas faire tous les jours ou qu'on peut pas faire 5 soirs de suite parce que ben voilà, déjà moi, c'est très limite sur les questions de cheveux et de peau.
C'est vraiment de la javel?
Ben maintenant on s'est calmé, on a vraiment dilué, ou en tout cas je récupère que la javel qui est au sol. Mais avant, au début, pendant les 15 premières dates, c'était de la javel au début pure, puis après diluée, puis après plus de javel dans la bouteille, et puis voilà. Mais oui, parce que ça a des conséquences, tout a des conséquences, et après on se demande si ça vaut le coup de mourir pour un public majoritairement blanc. Voilà, mais c'est des questions un peu bizarres entre eux. Mais je travaille avec Céline Champineau, je sais pas si.
Oui.
Voilà, qui est metteuse en scène, autrice, comédienne.
Qui fait la dramaturgie du spectacle, c'est ça?
Voilà, dramaturgie, bon, qui est aussi une grande collaboratrice artistique et tout. Et on a beaucoup d'échanges sur cet endroit hyper bizarre entre spectacle et mon amour du théâtre, et à la fois mon amour de la perf, et comment on essaie de trouver des endroits qui se rencontrent entre les deux. On a des grands échanges sur cet endroit hyper bizarre et contradictoire qu'est faire du théâtre, et donc travailler sur un art qui se répète, qui est peut-être un truc où on maîtrise une partition et où on va pouvoir se dégager de ça et interpréter, enfin voilà, où c'est un art d'incarnation aussi, et la performance où on est dans le moment présent, où on est plus sur un travail de protocole, de prise de risque, un engagement politique. Est-ce que ça peut toujours être politique quand on le refait autant de fois? Est-ce qu'on peut s'engager tout le temps autant? C'est un spectacle épuisant. Et donc, bon voilà, enfin, je sais pas, c'est plein de contradictions et plein de choses qui sont assez enthousiasmantes à chercher.
Et justement, dans ces plein de choses, il y a plein de thématiques qui sont soulevées. On en a un petit peu parlé. Il y en a certaines qui se dessinent en creux, mais voilà, il est question aussi bien d'infantilisation, de fétichisation, que même de tropes qu'on va trouver. La Hungry Black Woman. Enfin, il y a plein de trucs qu'on peut analyser là-dedans, et il y a plein de choses à voir. Et il y aurait plein de choses qu'on pourrait encore ajouter. Je me suis demandé comment on s'arrête, comment on se dit ça va faire 3 heures et pas une pièce de 3 ans et demi, parce qu'il y a de quoi dire, quoi.
Ben, ce qui m'a calmé. Et c'est, heureusement, ça c'est. Parce que moi, c'était très angoissant comme création. parce que je me sentais une responsabilité très forte sur les épaules, de me dire il faut que ça fasse travailler un public potentiellement de personnes non concernées directement et qui participent parfois à l'oppression. Il va falloir que ça parle aux personnes noires et voilà, falloir que ça parle à tout le monde, que ça fasse travailler, que ça mette tout le monde au travail et pas que ce soit gentil pour les uns. Et voilà, bon bref, il y avait toutes ces questions-là. Il y avait la question de vouloir parler de tous les sujets qui concernent les femmes noires. De toute façon, déjà, j'avais dû me calmer. À l'époque, je voulais une troupe, enfin, je voulais fabriquer une équipe avec des femmes qui venaient de plusieurs pays différents et qui étaient, enfin, tu vois, une brésilienne, une meuf du Burkina et tout. Après, niveau budget, on s'est calmé. Voilà, ça m'a aidé. Après, je me suis dit, il faut que j'ai des femmes noires de tous âges. Après, je me suis dit, bon, pareil, en fait, matchez pas. Puis après, enfin, bon. Et donc, finalement, j'ai fabriqué cette espèce de groupe de pères, qui est entre 20 et 40, on va dire, gentiment. et on a resserré. Et avant de commencer la dernière semaine de résidence, on va dire, avant la création, il y avait un truc qui s'est déposé chez moi qui a été de me dire, en fait, bon alors désolé pour Julien Gosselin, il m'a rien fait, mais c'est mon exemple à chaque fois. Je me dis, Julien Gosselin, on va pas lui demander de résoudre la question de la condition humaine en un spectacle. Et donc moi, ma condition humaine de femme noire, en fait, j'ai le droit de la déployer sur plusieurs spectacles. Et il y a des gens qui font des spectacles sur l'amour éternellement, et des gens qui font des spectacles sur la précarité tout le temps, enfin bon bref, on a droit d'avoir des obsessions, et donc je me suis dit que bah, je faisais ce spectacle-là, et puis je pourrais en faire un deuxième. Mmh. Nous, on s'est dit qu'on ferait une suite à Carte Noire sur le rapport au racisme, enfin au rapport aux femmes noires et argent, femmes noires et religion et foi, donc on sait pas si on le fera vraiment, mais en tout cas le fait de se dire, je suis pas obligée de tout traiter en un spectacle, ça nous aide. Et on envisage là pour la troisième saison, quand on va commencer la troisième saison, de se reprendre un temps de travail, voir si on est toujours OK avec ces choses qu'on traite, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit bouger. Il y a aussi des membres de l'équipe qui changent, donc comment on intègre, pour le moment elles récupèrent la place d'eux, mais là comment on fait pour qu'elles intègrent avec leurs histoires et leurs pratiques le spectacle.
En effet, on ne demande pas aux gens dont l'identité sociale est très commune dans le théâtre d'être des porte-étendards. On n'a pas à faire ça. Justement, est-ce que cette réflexion, tu l'as eue de se dire peut-être que ce n'est pas un spectacle d'une femme noire, mais c'est un spectacle de Rebecca Chaillon, tout simplement. Et que t'es pas, et encore, j'irais même plus loin, pas le spectacle de la femme noire du théâtre, ouais. Mais de Rebecca Chaillon. Même si t'es pas toute seule, mais vous n'êtes pas nombreuses.
Ouais. Ben, je sais pas. C'est toujours un peu difficile pour moi à savoir. Parfois, je me rends compte que dans les entretiens autour du spectacle, parfois je parle que des questions politiques et j'oublie les choses que je mets en place artistiquement et j'ai toujours peur que ce soit pas ça, alors que quand même il y a des questions artistiques dans ce spectacle. Enfin, il y a des choix artistiques forts et, enfin, je crois en tout cas. Et donc, ouais, c'est un peu la bagarre déjà entre la Rebecca, on va dire, militante ou qui essaye de porter des idées au plateau, et la Rebecca artiste. Non, je sais pas comment répondre à ta question. Pour le moment, en tout cas, j'arrive pas à faire des spectacles où j'étais obligée là, en fait, dans mon nouveau spectacle, je suis pas au plateau. Donc il a fallu complètement que je me décentre, et en plus c'est un sujet qui me concernait plus. Je travaillais sur l'adolescence.
Plutôt vomir que faillir, ouais, donc.
Sur plutôt vomir que faillir, et donc d'un seul coup, il a fallu je pouvais plus me centrer comme étant le point de départ, même voilà, j'étais loin du sujet. Enfin, voilà, tout ce qui est contraire pour moi à la perf, c'est-à-dire de partir de soi et tout, là, je pouvais plus. Donc finalement, si, il est possible d'avoir une Rebecca Chaillon, metteuse en scène, qui ne se considère pas forcément toujours comme une femme noire dans ce qu'elle écrit. Mais c'est tellement un des chemins, hein. J'ai commencé l'estomac dans la peau sans me poser cette question. Et on me l'a renvoyé. Donc après, je me suis dit, puisqu'on me renvoie au fait que je suis une femme noire et que ça change la manière de voir le spectacle, pour les gens, c'était en positif ou en tout cas en mode, ouais, trop bien, il faut que ça existe plus. Finalement, je me l'approprie. Puis après, je me demande si je suis pas coincée. Donc bon, voilà, c'est toujours en chemin et toujours en réflexion. Mais en tout cas, ouais, Carte Noire, ça reste une expérience que je suis contente qui dure. Je suis contente qu'elle dure, cette expérience, parce que il se passe plein de choses. Plein de choses pour tout le monde dedans.
Une autre question qui est pas mal liée justement au biais qu'on va pouvoir avoir en allant voir le spectacle, en sachant que c'est le tien et en sachant quelle identité tu as, ou en tout cas à laquelle on t'associe d'ailleurs, c'est cette question de la transgression. Est-ce que la transgression, c'est un gros mot pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches? Je pense notamment, on en parlait tout à l'heure, au fait qu'il y a le moment où vous jouez la colonisation et que vous allez voler des choses dans le public. Alors voler, on pose des choses sur le plateau, les gens les reprennent à la fin, mais l'acte est assez fort quand même. Déjà, on dérange le public, on le visibilise. Là où en France, on a cette tradition d'un public plongé dans le noir qu'on va chercher à la fin de sa sieste. On rallume, on applaudit et voilà. Le public est très, très vivant, il participe activement au spectacle et il y a ce truc d'interaction où en fait le plateau est finalement très peu limité, quoi. Les comédiennes s'échappent presque. Ouais. C'est quoi ta réflexion sur la transgression?
Ah bah moi, c'est que ça qui m'intéresse, je crois. Enfin, en tout cas, là, tu vois, je suis en stage, j'anime un stage au conservatoire de théâtre à Pantin pour les élèves d'Aubervilliers, de Bobigny et tout. Et je leur dis tout le temps ça, je leur dis, il faut prendre des risques, il faut pas vous mettre en danger. Enfin, un petit peu, mais pas trop.
La javel.
Voilà, j'évite, tu vois, de leur amener la javel en cours. Mais non, non, je leur demande de prendre un risque, de transgresser des choses, parce que les règles, elles sont faites pour être transgressées. Et puis, on est dans une institution. Comment, si tu veux, avec un sujet pareil, jouer dans une institution, c'est comme une blague. C'est comme si tu faisais... Enfin, je sais pas. C'est comme faire un spectacle en prison, quoi. Enfin, j'exagère un peu parce que l'institution, c'est pas forcément la prison, mais il y a quelque chose qui se fait avaler. Pardon. Il y a quand même c'est quand même un endroit où il n'y a pas de personnes racisées, où il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont les mêmes moyens que, enfin, bon, tout ce qu'on sait. Et donc, de jouer des spectacles qui dénoncent ces choses-là au sein de l'institution, c'est un peu blague, parfois. Donc, il fallait quand même qu'on voit comment on pouvait déstabiliser le lieu théâtre. Que ce soit en disant, bah, d'abord vous allez vous taper des femmes noires qui lavent votre théâtre, ou de dire, on s'en fout, on marche avec nos... Et même, tu vois, on s'est encore jamais trop fait engueuler par les théâtres, mais c'est vrai qu'on marche avec les pieds pleins de chocolat, de mousse, de machin, on s'assoit sur les sièges, on fait n'importe quoi. Et donc, on décide qu'on perturbe le lieu, et puis on a beaucoup de consommables, et ça c'est au charge du théâtre, et c'est pour servir à boire aux femmes noires uniquement, et voilà. Enfin bon. Donc moi, ça m'amuse de... Enfin, je le pense pas forcément en me disant, alors, qu'est-ce que je vais faire pour faire chier? Mais naturellement, ce qui m'excite, il va y avoir des trucs qui m'excitent, et je me dis, pourquoi pas. Là, je vois en Allemagne, par exemple, sur la colonisation, il y a des personnes qui n'ont pas voulu... donc, qui ont résisté, qui n'ont pas voulu donner. Moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et en fait, j'étais là, genre, non, c'est pas possible. Donc là, ce moment-là, enfin la première date comme ça où quelqu'un refuse, l'équipe me tire vers le fait de continuer le spectacle en disant non mais c'est pas grave, laisse tomber, on continue. Et on a fait une réunion et j'ai dit mais en fait non, je veux pas continuer le spectacle. Si quelqu'un refuse de donner son truc, on parle de colonisation, on parle pas de donne-moi tes affaires, c'est gentil. Donc moi j'arrête le spectacle. Et donc du coup on a tenté ça, on a dit bah en fait c'est soit tu sors. Enfin, voilà, de pouvoir se dire, bah non, on vire le public s'il veut pas donner ses affaires. Donc c'est hyper violent, c'est hyper machin, mais je me dis, après tout, ça me fait chier si les gens ils ont pas peur. Je suis là, enfin...
C'est plus dur de transgresser si tout est ok, ou si le public est un peu apathique.
Surtout si c'est pour... Tu poses une règle et tu poses un truc, et puis après tu le tiens pas parce que tu te dis, oh, on va pas faire chier quand même. Bon, bah, si on peut vraiment déranger, faire peur, faire chier, que les gens, ça puisse... au moins leur poser la question vraiment et pas juste de manière intellectuelle, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on sorte un tout petit peu du rapport intellectuel. On travaille sur l'inconscient raciste, sur l'inconscient sexiste, on travaille sur les endroits de résistance concrets et physiques aussi.
Il y a un questionnement que j'ai sur ces spectacles qui se disent permissifs et qui se disent transgressifs, c'est justement cette place du public, cette place du public comme participant au spectacle. C'est quoi ta vision, toi, d'un spectateur? Il y a un livre qui a été écrit et que je cite dans l'épisode de Dramatis qui parle justement de « La vie est une fête ». Donc c'est un livre qui s'appelle « Musicking », en disant qu'en fait... non seulement le public fait partie du spectacle, mais au même titre que le personnel d'entretien qui le rend possible, au même titre que la personne qui tient la billetterie, au même titre que la personne qui va rénover le bâtiment, parce que sinon le bâtiment se pète la gueule et il n'y a pas de théâtre. Et tous ces gens participent à l'action de musiquer, dans notre cas, théâtrer. C'est quoi ta vision, toi, d'un spectateur, d'une spectatrice?
Bonne question. J'adorerais que ce soit... Enfin, moi, je viens des mouvements d'éduc pop, et quand j'ai appris à jouer, on a toujours ce truc de dire il n'y a pas de spectateur, on n'est pas en train de refaire du théâtre, on est en train de jouer. Et donc, on part du principe qu'il y a des joueurs et des regardants qui sont en attente de jouer. Et on tourne comme ça. Et donc, dans tout le travail d'atelier ou dans tout le travail que moi, je fais en répète et tout, j'essaie d'être dans ce rapport-là. Donc, c'est vrai que j'adorerais... Enfin, j'adore me dire que... Et en plus, on sait comment sont composées les salles de théâtre. Il y a énormément d'artistes ou de gens qui jouent, des fois, qui sont des joueurs. Et donc, je me dis, c'est chouette que Si tu es dans un spectacle, tu te dis qu'à tout moment, ça peut se mettre à dérailler et que tu pourrais aller jouer. Enfin, c'est ce qui se passe avec le public privilégié. Je trouve ça génial qu'il y en a qui se disent « Ah, bon, bah, je crois que j'ai compris la règle du jeu, allons-y. » Donc ça, je trouve ça chouette. Ce que j'ai aimé ressentir, c'est ça que j'essaie de faire pour le moment. Et peut-être que je suis encore un peu coincée sur ce que j'ai aimé ressentir, moi, au théâtre, quand j'y allais et que ça me désarçonnait. Donc c'était plutôt l'époque Rodrigo Garcia, Angelica Lidl, Romeo Castellucci. Bon, je suis désolée, ça commence à dater, mais je pense que depuis, j'ai plus été voir des copains.
C'est des gens qui sont actifs. Copains,
hein. Ouais, carrément. Et puis après, j'ai plus été voir, pas que mes copains-copines ne me déstabilisent pas. Enfin, Céline Champineau, par exemple, quand je vois ses spectacles, ça me déstabilise énormément. Mais en tout cas, ce que j'aimais bien, c'est me faire mon spectacle toute seule. C'est qu'on me laisse énormément de liberté et de choix quand je regarde un spectacle, parce que d'un seul coup, enfin bon, c'est bête ce que je veux dire, mais qu'on me laisse tout l'espace des signes et que je puisse fabriquer, que je puisse, quand il s'agirait de Rodrigo, aller lire un texte parce que c'était traduit, donc, mais c'était pas juste surtitré, c'était exposé comme la littérature exposée, voilà. Et puis en même temps, il y a une action qui se passe et j'ai le temps et l'espace de me projeter et d'inventer des trucs sur pourquoi ils font ça et de le mettre en et de faire des résonances. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime pas trop quand on me facilite trop la tâche. J'aime le rapport à l'art contemporain. Enfin, je sais pas comment dire, à l'art, enfin, au tableau, voilà, où tu regardes un truc et tu sais pas et tu te fabriques ton histoire et tout. Et j'aime bien l'idée que tu viennes et que. Et c'est pour ça que généralement, j'ai des grands sas de démarrage dans les spectacles parce que j'aime bien que les gens déposent là d'où ils viennent et qu'ils aient le temps de plonger. Bon, et s'ils veulent dormir pendant le début, ils peuvent dormir pendant le début. S'ils veulent se rendre compte que ça va pas être pour eux. Il y a des gens, ils se barrent à la deuxième tresse. Enfin, ils se barrent au début. Et je me dis, bon, bah, en même temps, tant mieux. Tu sais que tu vas pas pouvoir supporter ce langage-là et que tu veux pas, c'est ok. Ouais, j'aime bien qu'on s'amuse. J'aime bien que, voilà, qu'on soit actif, quoi.
Est-ce que théâtre, c'est un mot trop limitant pour toi?
Faudrait se réapproprier l'insulte. Je sais pas,
c'est-à-dire théâtre, c'est une insulte.
C'est pas bien vu, quoi. C'est pas une insulte parce que personne s'insulte de théâtre. Je sais pas ce que ça veut trop dire, mais c'est sûr que moi j'essaie de m'en dégager un peu. J'ai bien aimé tout ce que ça contenait. J'ai appris des choses merveilleuses dans des ambiances de vieux théâtre, de troupes, de costumes, de machins, de. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé les textes et les vieux textes et les nouveaux textes. Et voilà, il y a des choses que j'aime là-dedans, mais ce qui m'emmerde profondément, c'est à quel point ça exclut. Enfin, à quel point il y a plein de gens qui s'autorisent pas à jouer, à quel point il y a plein de gens qui s'autorisent pas à aller voir parce que c'est pas une question financière, c'est une question de comment on a cloisonné, comment on a coupé certains récits, comment on en a fait un truc. Comment on l'a éloigné du jeu, quoi. On l'a éloigné de l'expression. On a tous besoin de s'exprimer. On devrait tous pouvoir jouer. Et moi, je suis toujours choquée de me dire, 20 ans plus tard, on est toujours. Il y a encore des gens à qui on a transmis que les gros classiques et qui se disent pas que c'est un outil et qui pourraient s'émanciper avec et jouer. Et du coup, bon, voilà. En même temps, je dis, tant mieux pour. Enfin, fuck pour le théâtre qui a pas. Qui n'a pas senti venir le truc et qui se laisse déborder et qui voit bien que. Maintenant, les jeunes, ils font option théâtre parce qu'ils veulent faire un youtubeur. Enfin, moi, c'est ça, quand je leur demande c'est quoi qui vous a donné envie de faire l'option théâtre, ils me disent je vais être youtubeur, youtubeuse et tout. Je suis là, genre. Ah. Et après, je me dis fuck you, c'est normal. Enfin, tant pis, voilà. Enfin, pas tant pis, mais tant mieux, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une sorte de. C'est presque plus de la performance, quoi. Ils ont envie d'aller. Finalement, être indépendants dans leur prise de parole, dans leur envie de se mettre en scène, dans leur envie d'écrire leur propre texte. Bon, voilà, je me dis, je me dis que finalement, c'est une bonne, peut-être une bonne revanche qu'on n'a pas su se bouger, se renouveler, et pour s'ouvrir. Mmh. Donc, voilà.
Le théâtre est mort, vive le théâtre.
Ouais, peut-être, je sais pas. Je trouve que ça a pas été accueillant pour les personnes non blanches, pour les personnes queer, pour les personnes, voilà, mais je sais qu'il y en a qui vont se réapproprier l'outil, et je sais qu'il y en a qui vont aller travailler ailleurs et qui vont, renourrir ce qui existe, donc voilà, les gens qui se battent dedans et les gens qui se battent dehors, les gens qui sont dans l'institution et les gens qui militent en dehors et qui créent des tiers-lieux, tout ça, j'espère, va faire que ça bouge dedans et dehors.
Vous avez écouté un épisode bonus de Dramatis, je suis Mathis Grosso, j'ai reçu Rebecca Chaillon et vous, vous êtes une belle personne, voilà, salut.
As the day winds down, don't let allergies disrupt your night. Add Aspire Allergy and Sinus. We're here to bring you peace and relief. Our expert team offers personalized allergy testing and advanced treatments, so you can enjoy restful nights free from the struggles of congestion and discomfort. Make the evenings yours again. Visit AspireAllergy.com to schedule an appointment and experience a life where every breath is serene. Breathe easy. Sleep better. Aspire Allergy, your pathway to peaceful nights and brighter mornings. AspireAllergy.com.